À l'occasion des Journées européennes de l'archéologie, le Centre des monuments nationaux et les Reines de l'Histoire, une entreprise de conseil en valorisation des patrimoines historiques, dont la spécificité est de travailler sur le dressage du cheval médiéval, organise du 17 au 19 juin prochain au Château d'Assier des rencontres internationales autour du thème « Le cheval au Moyen-Âge et à la Renaissance, outils ou partenaires ». Nous allons en parler avec Sylvie Ducéau, administratrice adjointe des châteaux d'Assier, Castelnau et Montal, et Adeline Dumont, des entreprises Les Reines de l'Histoire. Bonjour à vous.
Bonjour.
Alors, c'est un peu particulier ces rencontres, puisque ces rencontres mêlent la science à l'histoire.
Exactement, et le château d'Assier était probablement le cadre idéal pour organiser ces rencontres. Le château d'Assier a été construit au début du XVIe siècle par Galliot de Genouillac. Et c'est un homme qui est typique de son temps, c'est-à-dire qu'il est né en 1465 et très jeune, comme tout enfant de la noblesse. Il a été placé près de son oncle pour recevoir son éducation de futur chevalier. Son oncle était maître d'artillerie du roi Charles VIII. Et à la mort de son oncle, devenu jeune adulte, il prend la succession de la charge de son oncle. Donc le milieu du cheval... Galliot le connaissait très bien, il était lui-même un cavalier expérimenté. Et au château d'Assier, nous avons des représentations de chevaux. Déjà les chevaux des convois qui tiraient les canons que Galliot a rassemblés pour les emmener vers la bataille de Marignan et aider son roi François Ier à être victorieux. Mais aussi le cheval de la statue équestre de Galliot de Genouillac qui figurait sur le portail d'entrée du château.
Alors comment est née cette idée de ces rencontres, l'idée de ces rencontres ?
De mon côté, c'était une très vieille envie. Hein. Ça fait un petit moment que je travaille avec des chercheurs qui sont aussi des cavaliers-chercheurs. Et on se rencontre régulièrement lors de colloques internationaux, mais on n'a jamais eu l'occasion... de mettre en pratique. Hein. On s'est quand même retrouvé dans la cour d'un collège anglais avec des manches à balai pour essayer de comprendre ce dont on parlait. Donc je me suis dit, pourquoi pas organiser un colloque qui mêlerait les deux, la conférence en salle et l'expérimentation à cheval, pour à la fois échanger entre nous et montrer un petit peu notre travail au public. Et les monuments nationaux, et particulièrement Sylvie... On trouvait cette idée intéressante et on s'est dit que le château d'Assier était un cadre plus qu'intéressant pour organiser ce genre de choses.
Et donc vous représentez l'entreprise Les Reines de l'Histoire, alors les Reines R-E-N-E-S de l'Histoire, référence aux chevaux. Comment est née justement cette entreprise et qu'est-ce qu'elle fait exactement ?
Alors, comment est née cette entreprise ? Ce serait une histoire un peu trop longue, mais moi j'ai toujours aimé le patrimoine, le paysage et les chevaux. Donc à un moment dans ma carrière, je me suis dit que j'allais faire quelque chose pour ça, et j'ai eu cette idée un petit peu folle de créer cette entreprise qui fait non seulement de la recherche, des conférences, mais a cet aspect un petit peu particulier. Et cette idée un peu folle de dresser des chevaux pour aller à la guerre au XIIIe siècle, ce dont on a besoin aujourd'hui absolument.
Mais oui, parce que c'est vrai que l'histoire du cheval, en tout cas de l'usage du cheval en chevalerie et pour la guerre, remonte au Moyen-Âge ou bien avant même ?
Alors, bien avant, hein, on sait déjà que, par exemple, les Gaulois et les Romains, lors de leur bataille, alignaient des cavaleries, alors montées ou attelées. On sait déjà que sous l'Égypte ancienne, dont on parle beaucoup actuellement, il y avait tout de la charrie, c'est-à-dire les armées égyptiennes se battaient avec des hordes de chars à chevaux. Donc ça fait très longtemps qu'on utilise les chevaux pour la guerre. Après, on estime un petit peu que l'apogée de la chevalerie au sens de son usage technique maximum est au XIIIe siècle, où il est un petit peu le chevalier, son armure, son cheval, et l'effet de groupe, c'est un petit peu l'arme ultime.
Donc en fait, quand on regarde un film sur l'histoire, quand on voit des films qui retracent l'histoire chevaleresque, Est-ce que on peut se dire qu'il y a des fois des erreurs? Est-ce que ça colle vraiment à la réalité ou pas? Et est-ce que c'est ça le but de votre entreprise, de vos recherches en tout cas?
Alors, à la première question, y a-t-il un fond de véracité dans ce qu'on voit dans les films de chevaliers, que ce soit pour le combat, pour le cheval et pour l'interaction entre les deux? Dans 99,9% des cas, ce que vous voyez n'est pas crédible. Moi, mon travail...
Ça nous rassure.
Oui, mais après, l'objectif du cinéma, c'est d'être du cinéma, pas forcément d'être un reflet de la réalité. Sachant que le reflet de la réalité, c'est très difficile parce qu'on n'a pas de données précises sur ces périodes-là. Donc moi, mon travail, c'est de compléter le puzzle que nous avons, hein, puisque là, nous avons, je dis souvent, un puzzle de 1000 pièces, sauf qu'on n'en a que 50 en réalité, et mon but, c'est de tracer le lien entre tous les petits morceaux d'images qu'on a. Donc mon travail, c'est vraiment ça, et c'est vraiment d'essayer de retrouver les gestes techniques possibles et probables, ainsi que le matériel qui va avec, et les chevaux qui vont avec, bien sûr, parce que les trois vont ensemble.
Mais du coup, est-ce que le but de vos recherches, c'est d'aller au plus vrai de l'histoire
C'est l'objectif. C'est même si parfois...
Et de démonter ce qui a été déjà
oui,
fait.
Forcément, oui. Et pour moi, faire ce genre de recherche sans les partager avec le grand public, ça n'a pas d'intérêt. Si c'est pour que ça reste dans un placard et que personne ne le voit, ça n'a pas de sens. C'est intéressant de montrer au public aussi la démarche qu'on a, et je le fais régulièrement, hein, Sylvie pour en être témoin, ne serait-ce qu'avec les enfants, de leur montrer ce qui marche et ce qui ne marche pas. Et là, ça peut permettre, si vous tenez votre lance de telle manière, vous allez faire tomber votre cible. Si vous la tenez de telle manière, et votre bras va se retourner et ça ne marchera jamais.
Et vous aurez le bras cassé.
Accessoirement. Oui.
Donc tout le but de ces rencontres internationales, ça va être un petit peu de démontrer tout ça et de nous apprendre à travers le cheval, à travers l'utilisation des armes et du cheval, comment ça se passait réellement au Moyen-Âge.
En tout cas, c'est ce qu'on va essayer de faire.
Et à la Renaissance. Et on avait vraiment à cœur de faire quelque chose d'accessible pour le grand public. Et donc, l'originalité de ces rencontres, justement, c'est de faire alterner des conférences en salle avec les chercheurs qui vont faire l'état de leurs recherches. Je précise qu'il y aura des conférences en français et en anglais, puisqu'on a des chercheurs qui viennent de loin, pour certains. Mais surtout, c'est toute cette partie de confrontation, justement, qu'on appelle table ronde en général dans des colloques. Ici, ça va être des démonstrations à cheval. Et les gens pourront assister justement à cette confrontation. Et on aura trois temps forts avec... une présentation un peu pour tout le monde sur le parvis du château à 18h le vendredi soir. Et le samedi et le dimanche après-midi, donc ces tables rondes seront dans la cour du château. Et on a deux thématiques. Le samedi, ce sera sur l'utilisation et les techniques autour du matériel reconstitué, parce que c'est un des grands sujets, justement. Souvent, les objets de harnachement, le matériel, l'équipement a disparu. On en a soit des morceaux très parcellaires par l'archéologie, soit on doit le reconstituer quand on est un chercheur pour voir comment ça marchait. Donc ça, c'est pour le samedi. Et le dimanche, on aura vraiment toute une expérimentation autour du combat. Comment on se battait à cheval, avec une lance, avec une épée ou une dague, puisque ce sont des armes qui n'ont pas toutes le même poids, qui ne se tiennent pas de la même manière. Voilà.
Et aussi comment on utilise le cheval lui-même comme une arme, éventuellement.
Avant tout.
Et d'où viennent toutes les personnes invitées, tous les conférenciers, conférencières? Parce que je vois qu'effectivement, il y en a qui viennent de très 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 loin.
Oui, là on a des participants. Alors les plus loin viennent du Texas, mais sinon ça vient d'Angleterre, de Lettonie, d'Italie, d'Irlande, avec un peu plus de nationalité encore, puisque beaucoup ne vivent pas dans le pays où ils sont nés. Donc on a vraiment des chercheurs qui sont alors absolument tous cavaliers dans leur vie, et pour un certain nombre d'entre eux sont aussi chercheurs opérationnels pour le cheval médiéval.
Justement, est-ce que l'utilisation du cheval était la même à travers les différents pays du monde et l'Europe?
Alors, ça, c'est une vaste question. On sait très très peu de choses. Hein. C'est les premiers réels traités équestres n'apparaissent pas avant le XVe siècle. Et ce sont des traités qui sont plus des traités philosophiques. Avant, on a ce qu'on appelle plutôt des ouvrages vétérinaires, donc qui vont nous expliquer pourquoi on arrache telle dent pour mettre un mort, comment soigner un cheval qui a mal aux pieds. Donc ça va pas tellement concerner l'équitation en elle-même. Donc on sait pas très très bien. Après, ce qu'on sait, c'est en regardant le matériel, en regardant les textes, il y a des spécificités régionales et des usages particuliers. Alors certains vont être plus dans le cheval... on va dire physique, qui va servir de boulet de canon, d'autres plus dans l'usage de la lance. Et après, il y a les spécificités morales, parce qu'en fonction de ce qu'on estime être bien, être noble, être chevaleresque, on peut avoir des petites nuances. Bon, après, sur un champ de bataille, quand il s'agit de sauver votre vie ou d'écraser son voisin, là, les choses peuvent être différentes.
À qui s'adressent justement ces 3 jours de conférence ? Est-ce qu'il faut être déjà initié aux chevaux ? Est-ce que...
Pour ce qui est des matinées, peut-être un petit peu plus, en tout cas avoir un intérêt pour le sujet en particulier, puisque certaines conférences seront un petit peu plus pointues que d'autres, et en anglais, donc forcément c'est un petit peu plus délicat. Après, forcément... Tout public qui est bienvenu, hein, y a pas de souci. Après, pour ce qui est de l'après-midi, pour ce qui est des démonstrations à cheval et des ateliers, alors le samedi, je vous précise, il y en aura 2, un sur l'enluminure à base de licorne, et l'autre que je proposerai sur la tenue du chevalier, où je m'habillerai devant les gens avec une scène de déshabillage tout à fait terrible.
Mais décente.
Mais décente. Enfin, ça dépend à quelle période on est. C'est toujours ça. Donc, tous les après-midi seront accessibles à absolument tous les publics. Parce que même si vous n'avez pas d'intérêt particulier pour le cheval médiéval ou aucune connaissance, ça n'a pas d'importance. Vous pouvez venir voir... au moins, il y aura quelque chose à voir, au minimum. Et puis, les chercheurs seront de toute façon disponibles pour répondre à toutes les questions. Je précise que même si un certain nombre sont étrangers, beaucoup parlent le français, au moins suffisamment pour répondre aux questions. Mm-hmm. Et ça, c'est l'intérêt aussi.
Moi, j'ai une question. Est-ce que les femmes montaient à cheval à l'époque médiévale ?
Ah, vaste question. Alors ça, c'est un de mes sujets de recherche en cours. Les femmes montent à cheval au Moyen-Âge. Bien sûr qu'elles montent à cheval. Toute la question, c'est comment ? Alors, pour ce qui est des sources iconographiques, on sait que jusqu'au XIIIe ou XIVe siècle, elles montent à cheval à califourchon, comme à peu près tout le monde, surtout à la chasse. Et que l'équitation avec les jambes de côté ou en Amazone arrive progressivement à partir du... On commence à en voir quelques-unes dans les enluminures à la fin du XIIe, au début du XIIIe, et ça devient vraiment courant bien après, sur la fin du Moyen-Âge. Mais oui, les femmes montent à cheval, il n'y a pas tellement d'autres moyens de déplacement. Comme, sinon, c'est la charrette, mais quand vous êtes noble, c'est pas le truc qu'on va privilégier.
Oui, d'accord. Sophie, il y a aussi une pièce que vous allez montrer, une pièce tout à fait extraordinaire, puisque c'est une selle, c'est ça ?
Oui, tout à fait, en fait. En marge des conférences et des démonstrations, il y a une présentation dans le château de la selle de Senonches. Donc Adeline pourra compléter ce que je dis. C'est une selle qui a été trouvée lors des fouilles archéologiques au château de Senonches. C'est un village de Ré-Loire. Et c'est très rare de découvrir des selles. Et comme cette selle avait... Voilà, on l'a retrouvée, c'était des morceaux de métaux un peu dans tous les sens. Il y a eu une première tentative de recréation. Voilà, là aussi, c'est un acte d'archéologie expérimentale entre archéologues, cavaliers, chercheurs et un sellier pour refaire cette selle. Donc nous présenterons à la fois l'objet archéologique, la reconstitution et les objets qui étaient aussi autour de l'objet lors de la fouille, qui sont des éléments d'harnachement de cheval. Et nous aurons quelques panneaux, voilà, pour présenter l'histoire, un petit peu l'épopée même de cette découverte, oui, et de sa reconstitution. Et c'est l'un des sujets justement qui sera traité en conférence par Adeline et par Marina Vialon.
Marina Vialon était là aussi, mais c'est Émilie Fink qui fera la conférence avec moi, puisqu'elle n'est pas spécialiste du cheval, mais était responsable à l'époque du service d'archéologie d'Eure-et-Loire, et s'est trouvée en face d'un objet qu'elle ne comprenait pas, et a lancé une bouteille à la mer, et j'ai répondu, et la suite a donné cette selle. Il faut savoir que cette pièce archéologique est unique. En France, on a... qu'une seule autre selle plus vieille que ça, c'est la selle de Charavine, dont il reste un morceau qui est gros comme une plaque de beurre. Donc c'est vraiment un modèle unique.
Qui généralement est exposée où ?
Alors, elle n'est pas exposée depuis quelques années déjà, et elle le sera au château de Senonches,
après travaux,
donc elle va retourner directement au château, là, après son passage chez nous, et elle va retrouver sa maison, et elle sera exposée là avec la reproduction.
D'accord. Donc,
je précise que cette reproduction, elle est en fonction... et que s'il ne fait pas un temps trop mauvais, on la mettra sur un cheval et je monterai dessus.
D'accord.
Et autre précision, on a oublié de dire que c'est une selle du XIVe siècle.
C'est ça.
Ok. Autre chose dont on n'a pas parlé, il y a un film d'animation qui va être projeté également.
Oui. Alors, en fait, c'est un film russe qui s'appelle Ilya Muromets, qui est basé sur une légende. C'est la fabuleuse histoire d'un chevalier et de son noble destrier. Et ce film a un intérêt, hein, parce que ça reprend une vieille légende dont on peut difficilement donner la date, hein, comme beaucoup d'histoires racontées. Ça remonte à la période médiévale, mais jusqu'à quand, on ne sait pas. Et cette histoire, c'est celle d'un chevalier qui va traverser la moitié du monde pour retrouver son destrier magique. Donc c'est à la fois sympathique à regarder et intéressant sur ce que ça dit du lien entre le chevalier et son cheval.
Et donc, clore les rencontres par ce film d'animation me permet de répondre à la question posée finalement.
Oui. Mmh.
Donc que vous soyez féru de cheval, d'histoire ou de recherche, eh bien vous pouvez venir à Assier du 17 au 19 juin prochain. En plus, dans un château magnifique. Est-ce qu'il faut réserver pour assister aux conférences ?
Non, ce sera ouvert. Le château a une certaine capacité d'accueil, donc normalement, on devrait pouvoir accueillir tout le monde. Pour cet atelier d'enluminure, le samedi, et la démonstration du cavalier, voilà, de 14h30 à 16h, là, la réservation est conseillée. Donc si vous voulez consulter le programme, vous pouvez regarder sur la page internet du Château d'Assier, hein, www.château-assier.fr, ou appeler au 05 65 40 40 99.
Autre précision, les tarifs, est-ce que c'est gratuit ou est-ce qu'il y a un tarif ?
Alors, le vendredi soir, la représentation devant le château est gratuite à 18h. Sinon, l'entrée, c'est 4€ à partir de 26 ans. Et c'est gratuit pour tout le monde jusqu'à 26 ans.
D'accord. Merci beaucoup.
Merci, Frédéric.
À très bientôt, à cheval ou à pied. Au revoir, merci.
Au revoir.
Au revoir.